Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli. 22h06, vous êtes sur RMC. On vit l'épilogue de la saison régulière de Top 14. C'est reparti sur certaines pelouses. Vous le savez également, nous avons le plaisir d'être avec Wilfried Templier qui nous fera un point sur tous les enjeux, les changements au niveau du classement, les barrages, ceux qui recevront à domicile, ceux qui seront obligés de jouer à l'extérieur, les gagnants, les perdants. Vous allez tout savoir. Ça a démarré à Bordeaux. Pierre Thévenet, c'est reparti donc entre l'UBB et Clermont.
Depuis une minute, et l'UBB qui mène 24 à 14, déjà un changement côté bordelais, c'est Salé Sirayassi, l'arrière fidjien qui a remplacé Romain Bureau, c'est un petit peu en difficulté sur la première période, et il a déjà failli franchir sur sa première occasion. Clermont qui a une mission quasiment impossible, remonter 10 points sur la pelouse du double champion d'Europe en titre, mais Wilfried en parlait à la pause. Pour l'instant, les autres résultats sont plutôt favorables à Clermont, c'est-à-dire qu'une victoire à l'heure actuelle leur permettrait d'intégrer les 6, mais évidemment qu'ils en sont loin. Les hommes de Christophe Hurus pour l'instant menés 24 à 14 sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles, et un ballon dans la moitié de terrain clermontoise, dans les bras des Clermontois qui vont même avoir une mêlée à jouer à hauteur de la ligne médiane. Introduction pour Baptiste Jauneau. 24-14 pour l'UBB, 42e minute de jeu.
Et c'est reparti également à Pau. Eddy Artigonde avec toi, Pau Montauban. Franchement, le spectacle est chez toi ce soir.
Oui, magnifique essai de Montauban après seulement 3 petites minutes de jeu dans cette deuxième période de Vallée. L'ailier évidemment qui se fait la malle, petit coup de pied à suivre, il n'y a pas de troisième rideau, et donc eh bien l'ailier qui aplatit et Montauban qui revient. On va suivre évidemment la transformation à venir pour Thomas Fortunel. Les Montalbanais qui privent pour l'instant le point de bonus offensif à la section paloise, et l'essai est transformé. 38 pour Pau, 28 pour Montauban. Johan, c'est assez surprenant quand même de voir cette équipe de Montauban avoir déjà passé à 4 reprises hein, la ligne d'en but de la section paloise.
Ce qui est surprenant surtout, c'est de voir des Palois qui préparent le barrage à domicile et prendre autant de points. Ça, c'est surtout ça qui est surprenant. Même si c'est une équipe remaniée, il faut quand même avoir des bases solides pour préparer le match d'après, non pas avoir des nœuds à la tête comme ils sont en train de se le faire avec une défense. C'est un peu un match hurrah rugby, ça attaque de partout, ça n'a pas trop envie de se faire mal juste avant les barrages, j'ai l'impression.
On rappellera, Karine, que plusieurs absences hein, côté section paloise qui sont au repos. Broboiré, Grand Didier, Desperes, mais également Atisokbe, Oradou, Robson, Gorgadze, Laklaya, Issa. Ce seront des forces vives que l'on pourra retrouver évidemment lors du barrage. Ce sera le week-end prochain au Stade du Hameau.
Effectivement, on suivra ça. On va partir du côté de Lyon où c'est reparti également Édouard G. Pour l'instant, c'est Montpellier qui fait la mauvaise affaire parce que les Montpelliérains, on le rappelle, sont menés sur la pelouse du Loup.
Oui, exactement, 22 à 16. On pensait qu'ils avaient fait la bonne affaire de l'infériorité numérique. Hein. Rappelons que Yacouba Camara est copé d'un carton orange à la 20e minute. Donc, pendant 20 minutes avant la pause, ils étaient en infériorité numérique. Mais c'est pendant ce temps-là qu'ils ont marqué 3 pénalités de suite. Ils étaient passés devant 16 à 15. Mais au final, il y a eu cet essai juste sur la sirène pour les Lyonnais de Théo William qui leur permet donc de se remettre devant. À l'équipe qui ne joue plus rien dans cette partie, si ce n'est de gagner, garder cette 10e place. Et pour l'instant, eh bien, la mauvaise opération est pour des Montpelliérains. Peut-être la bonne nouvelle pour la deuxième mi-temps, en tout cas dans ces premières secondes, c'est qu'ils sont désormais à 15 contre 15.
On retourne au stade Marcel Desflandres. C'est reparti entre La Rochelle et le Stade Français. Romain, tu nous disais qu'à la pause, à mon avis, il y allait avoir un coup de gueule. Est-ce que tu penses qu'il a eu lieu ?
À connaître un petit peu Roland Nogara depuis quelques années, oui je pense, lui qui est arrivé très détendu au stade, mais qui évidemment a pas envie que l'aventure s'arrête là, ou alors si elle s'arrête là, a pas envie de perdre à domicile. Parce qu'on rappelle qu'ils ont pas leur destin entre les mains, hein, les Rochelais. Ils étaient à 15 contre 14 dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Ça les a pas empêchés de prendre un essai. Ouais, 2 ballons dans les 22 pour les Parisiens, 2 essais. Voilà, réalisme total pour les hommes de Paul Gustard, mais pour l'instant ça leur fait du bien dans la chasse à la deuxième place. Ils ont le ballon sur la médiane, 40 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ça occupe un pied côté parisien, 12 à 7 pour le Stade Français face à La Rochelle.
On rappelle effectivement que La Rochelle était 7e avant le début et l'ultime journée de Top 14. Et pour l'instant, ils sont toujours 7e. Donc, ils ne réalisent pas cette opération en intégrant le Top 6. On va retourner du côté de Lyon avec Édouard G. Entre Lyon et Montpellier, c'est pas reparti sur toutes les pelouses de Top 14. Donc, on est avec toi, Édouard. Montpellier qui est toujours mené.
Qui est toujours mené, 22 à 16, 3 minutes de jeu, un ballon en l'air que vont peut-être récupérer les Montpellierains. Oui, en deux temps. Non, finalement, le rebond est favorable aux Lyonnais avec Charlie Cassan qui va ouvrir pour Camille Chat. Camille Chat qui rentre dans les 22 mètres avec ce ballon qui est déployé là-bas, côté gauche avec Maracou pour finalement peut-être Wayne Nicolo qui va le récupérer. Les Lyonnais qui sont bloqués, mais peut-être qu'ils vont pouvoir repartir un petit peu chassés par la défense. Montpellier-Rennes, premier temps fort là pour les hommes de Karim Ghezal dans cette entame de deuxième période. Ils ont toujours le tableau d'affichage en leur faveur, 22 à 16. Ils ont toujours le ballon. On va peut-être ouvrir une nouvelle fois sur Charlie Cassan, mais pour l'instant il est bloqué. On n'arrive pas trop à se développer. Si peut-être avec Théo Millet, puis Martin Méliande, et derrière avec Maracou là pour ce ballon. Théo Millet qui retourne. Les Lyonnais qui sont encore là sur le coup. Ils s'approchent de la ligne peut-être pour un essai. On a Théo William qui est en soutien là, peut-être avec Wayne Nicolo qui est pas très loin. C'est Charlie Cassan qui va essayer de sortir ce ballon. Les Lyonnais qui progressent avec Arnaud Botta une nouvelle fois. Les Montpellierains qui sont à la peine sur cette pression lyonnaise d'entrée de match, d'entrée de deuxième acte, avec pour l'instant on progresse de façon latérale, mais on se rapproche des poteaux pour les Lyonnais avec un ballon qui va finalement être repris là-bas par Wayne Nicolo. Mais pour l'instant, la défense montpelliéraine qui est toujours bien présente et qui empêche les Lyonnais d'aller marquer un autre essai dans cette partie. 22 à 16 à la 44e.
Ça vient de repartir à la défense Arena, Clément Crécio, entre le Racing 92 et Toulouse.
Eh oui, ce sont les Toulousains qui ont récupéré le coup d'envoi, donc qui ont le ballon. Et tout de suite, une première occasion déjà très dangereuse de Teddy Thomas qui a poursuivi au pied sur son aile. Et bon, ballon bien capté par Max Spring, mais on le voit, les Toulousains, ils reviennent avec les mêmes intentions qu'en première période. La question, ça va être de savoir si les mots de Colazo à la mi-temps vont faire effet sur son effectif, puisque les Racing ne mènent que 2 points d'avance, 7 à 5. On est à la 43e minute de jeu.
Romain Asselin, La Rochelle face au Stade Français.
Avec le choix, tiens, des points face aux perches pour les Rochelais. Nouvelle pénalité obtenue, mais vraiment plein axe hein, par les hommes de Ronan O'Gara. Ils sont menés 12 à 7 par le Stade Français, 44e minute. Bah, on en revient un peu à ce que je disais en avant-match, Johan. C'est avant de penser au bonus offensif qui est très très loin. Il faut déjà construire son match et déjà revenir au score. C'est ce que choisissent les Rochelais. Hein.
C'est ce qu'ils font maintenant à partir de la deuxième mi-temps. Alors qu'ils ont eu 2 premières pénalités qu'ils ont préféré aller en touche sur les 2 premières actions. Et là, ils s'aperçoivent qu'un match, ça se construit petit à petit, point par point. Et du coup, ils reviennent aux basiques, aux fondamentaux, tenter la pénalité pour revenir à 2 points des Parisiens.
Voilà, pénalité convertie par Nolan Le Garec qui porte le score à 12-10 en faveur toujours du Stade Français. Mais revoilà La Rochelle à 2 points, 45e minute.
Et oui, ça se rapproche effectivement, 3 nouveaux points dans la besace. Pierre Thévenet, on est avec toi entre l'UBB et Clermont.
Et 10 points d'avance pour l'UBB, 48e minute de jeu, et la deuxième période pour l'instant est largement à l'avantage des Clermontois qui ont mis la main sur ce ballon et qui ont eu une énorme opportunité d'essai avec un ballon porté finalement bien défendu par les Bordelais qui ont retourné les Clermontois dans l'embut. Mais Johan, très belle opportunité à venir, touche à 5 mètres pour les Clermontois qui sont revenus avec des nouvelles intentions dans cette deuxième période.
Ouais, le message de Christophe Furios est bien passé apparemment à la mi-temps, parce qu'on a l'impression que c'est une toute autre équipe qui démarre cette deuxième mi-temps sur la pelouse de Bordeaux.
Ovation pour Maxime Lamotte notamment, qui cède sa place, ainsi que Bastien Vergne-Taillefer, des hommes forts de la campagne européenne de l'UBB qui sont remplacés par Barlow et Gazzotti. Ça aussi, ça peut faire la diff, le gros banc bordelais dans cette deuxième période. Le lancer pour les Clermontois, bien capté par Kylian Tixeron. On est à 5 mètres de l'embut bordelais côté Auvergnat, mais à nouveau le ballon porté, très bien défendu par les Bordelots Béglais qui ont réussi à l'écrouler. Le ballon reste dans les mains des Clermontois avec Antimemri, l'énorme percussion d'Antimemri. On est à 3 mètres de l'embut. Et Baptiste Jolot qui sort le ballon pour Léon Darry Carrère. Il avait marqué en puissance tout à l'heure. On va rebondir sur le côté gauche. La passe pour Plumeur. Il y a un surnom sur l'extérieur. La longue passe de Baptiste Adelgui. Oh, l'en avant dans l'embut de Yérim Fall. Sur cette longue passe sautée de Baptiste Adelgui. Johan, il était fait cet essai pour le jeune ailier Clermontois, international à 7, qui lâche ce ballon dans l'embut. La passe un petit peu basse. Mais c'est terrible pour les Auvergnats qui avaient l'occasion de revenir tout, tout proche.
Johan.
Effectivement. Non. C'est terrible pour un ailier de voir cette passe qui arrive. Elle est tombante. Elle est difficile à aller chercher. 9 fois sur 10, il va marquer. Là, malheureusement pour lui, il a du mal à se saisir du ballon.
Ah, il essaie presque de plonger en la récupérant, mais il y aura une nouvelle pénalité pour les Clermontois. Karine, on est toujours à 5 mètres de l'embut bordelais. Le ballon est dans les mains clermontoises.
On reste avec toi. Hein.
Avec le talonneur Barnabé Massa, Babé Massa, qui va tenter de la jouer 7-7 déjà cette saison en top 14. C'est Jono finalement qui va jouer ce ballon avec Marcos Kremer. On est à 2 mètres de l'embut bordelais. Ils avaient bien réussi à les manœuvrer sur la séquence précédente. Est-ce qu'ils vont à nouveau bien réussir? Plumeur dans l'intervalle pour Loa. La passe après contact pour Yérim Fall. Il y a un nouvel avantage. Il y aura sans doute un carton jaune contre les Bordelais. La percussion et l'essai auvergnat. L'essai du pilier remplaçant Georgia Kaladze, qui venait de rentrer sur l'action précédente, et les sifflets de Chavon Delmas, parce que Bordeaux commence à avoir peur dans cette rencontre. Ils étaient largement devant tout à l'heure. Ils menaient 24-7. Désormais, il y a 24-19 avant la transformation d'Harry Plumeur. Les Clermontois sont de retour dans cette rencontre.
Oui, c'est extrêmement tendu et chaud à Chaban Delmas entre l'UBB et Clermont. On va retourner voir le Racing 92 face à Toulouse. On est avec toi, Clément Cressio.
Alors c'est Toulouse qui enflamme la rencontre pour l'instant depuis le début de la deuxième période. Chaque action est dangereuse, chaque action enflamme la pelouse. Côté toulousain, on vient de voir une succession de passes après contact de Chistera pour encore revenir à 10 mètres de l'embut, et malheureusement il y a toujours une petite passe en trop ou une passe manquée, des scories qui viennent empêcher les Toulousains de finir. Mais là ça fait à chaque action quasiment, il rentre dans les 22 mètres du Racing. La défense du Racing qui plie pour l'instant, qui n'a pas rompu. On est vraiment sur le fil dans cette rencontre, et ce sont les Toulousains qui imposent leur rythme dans cette rencontre alors qu'ils n'ont rien à jouer. Là, le Racing ne trouve pas les solutions et le ballon est confisqué par Toulouse, Johan.
La transformation d'Harry Plumeur est passée, 24-21 en faveur de l'UBB face à Clermont.
Ah ouais, le regard noir du côté du manager bordelais, on n'est pas content.
Yannick Bou n'est pas content.
Ouais, là on a eu. Tu m'as fait le même regard noir tout à l'heure.
Non, pas du tout.
C'est le regard du rugbyman mécontent, attention.
Non, mais c'est vrai que Toulouse revient très bien dans cette deuxième mi-temps. Ils confisquent le ballon, mais depuis le début du match, ils ont du mal à gérer cette dernière passe. Ils en font peut-être un peu trop et doivent être un peu plus patients sur ce dernier geste qui leur permettrait de creuser l'écart et surtout de prendre le score. Parce que malgré tout leur domination, ils sont toujours derrière au score.
Ah oui, s'ils n'arrivent pas, enfin à la fin, ils pourraient peut-être leur regretter de ne pas avoir conclu autant d'actions, parce que franchement, avec on va dire un peu plus de réussite, il y aurait pu avoir 2-3 essais en plus en faveur de Toulouse. Là, ils arrivent de plus en plus à percer le rideau défensif, et malheureusement, tu as dit, Johan, c'est toujours le dernier geste qui pêche depuis une petite demi-heure maintenant. Et là, pour l'instant, le Racing n'a pas les solutions, c'est assez inquiétant.
Eddy Artigon, on revient te voir, un nouvel essai pour Montauban.
Non, c'est un essai pour la section paloise, un essai de pénalité.
Ah ben voilà.
Un essai de pénalité.
Mais on vous dit ça dans l'oreillette. Parce que je n'ai pas
les mêmes couleurs à peu près. C'est les mêmes couleurs.
Voilà, c'est ça.
Écoutez, moi, je dénonce Théo. Voilà,
oh, l'essai de pénalité pour le Stade français. La décision forte de M. Charabas qui vient récompenser un travail de sable des Parisiens. Ça fait 5 minutes qu'ils traînaient dans les 22 de La Rochelle. Les gros ont fait le taf. Ils sont venus s'écrouler sur la ligne. Faute Rochelaise. Il y aura même un carton jaune. Et ça fait 17-10 et même 19-10. Il n'est pas actualisé le tableau d'affichage de De Flancy. Ça y est, et cette pénalité, 7 points de plus. Et c'est la très bonne opération du Stade français sur la pelouse de La Rochelle. 50e minute, 9 points d'avance pour Paris.
Bon, alors quel essai on analyse avec toi, Johan?
Celui que vous voulez, je vous suis.
Il y a un essai de castre. Bah,
c'est difficile d'analyser un essai de surpénalité. Après, même s'il est bien mené par cette équipe des Parisiens, on le sait, très fort sur les bases avec des avants très puissants. Là, des Rochelais pénalisés, carton jaune, double peine, et les Parisiens qui s'envolent au classement, au panneau d'affichage.
Alors, j'ai entendu Julien Lantry nous dire il y a un essai sur Castres Toulon,
juste
on a pris
rapidement.
Les images, alors tu vas nous raconter.
C'est pour ça que je te dis juste essai de Théo Chabouni, et les Castres s'envolent aussi au classement, faire entrer
tout le banc et ça fait 24-7 pour les castrés. Évidemment, aucune influence sur le classement. On est reparti depuis 13 minutes dans cette deuxième période, mais le CO se dirige vers une victoire finale dans cette J26.
On te fait confiance. Aïe, 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 aïe. Que se passe-t-il, Clément Cressieux? Un nouveau carton orange.
Et oui, vous disiez qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Et bien là, ils sont sortis aujourd'hui.
Ah oui, c'est la dernière journée,
pour,
là, ça y est. Hein.
Fabien Sanconi, coupable d'une charge à la tête dans un ruck sur Alexandre Roumat. Il y a eu un long visionnage vidéo et le corps arbitral a décidé de sanctionner Sanconi d'un carton orange. Et en plus, du coup, il y a une pénale touche. Là, les Toulousains qui vont avoir un lancer à 5 mètres de l'embut du Racing. Alors, les Racingmen vont devoir défendre à 14 contre 15. Le bon mot amorcé par les Toulousains. Ils progressent doucement pour l'instant. Il reste encore 2 mètres à faire encore pour l'instant. Il y a un avantage puisque ce mot a été écroulé. Ballon toujours dans les mains de Julien Marchand, c'est chaud, il faut défendre avec un avant de moins du côté des franciliens. On va revenir à l'avantage, signale monsieur l'arbitre. Voilà les Racingmen là maintenant qui sont pendant 20 minutes à 14 contre 15. Ça va vraiment pas leur faciliter la tâche. Il n'y a rien qui va dans ce début de deuxième période. Pardon.
Johan, il y a de l'inquiétude là.
J'ai de l'inquiétude parce qu'à 14, jouer déjà à 15 contre 15 contre le Stade Toulousain, c'est compliqué. On le voit depuis 47 minutes maintenant qu'ils sont dominés par ces Toulousains. Là, ils vont être pendant 20 minutes à 14, un avant en plus, donc ça va être. Il va falloir qu'ils soient
solidaires. Voilà, on va la jouer à la main, cette pénalité avec les Toulousains. Là, ce sont les avants qui ont chargé une première percussion. On revient à un mètre de l'embut. On va repartir à nouveau avec un autre pick and go. C'est Lacombe qui a pris le ballon après une petite passe de Roumat. Le grattage de Joseph, peut-être, que dit monsieur l'arbitre. Et oui, bien joué, Jordan Joseph qui récupère ce ballon et qui sauve les siens parce qu'il y a eu du changement à la mi-temps. Colazo ne doit pas être satisfait de son effectif. Il y a Jordan Joseph qui est rentré, Ibrahim Diallo et Demba Bamba. Voilà, du changement très tôt pour essayer d'insuffler une nouvelle dynamique. Et là, c'est Jordan Joseph qui s'illustre en venant gratter ce ballon sur sa ligne. Il sauve les siens, ils vont pouvoir se donner un peu d'air.
Et encore une fois, les Toulousains qui ont du mal à concrétiser ces actions, c'est fou. Hein. Ils arrivent à 2-3 mètres de la ligne, il y a une pénalité, il y a toujours une scorie côté Toulousain qui leur permet pas de prendre l'avantage au score. Hein.
Et du coup, on en reste à 7-5 à la 49e minute de jeu, le score qui n'évolue plus.
On va retourner voir Edouard G. Il y a une nouvelle bagarre, décidément, entre Le Loup et Montpellier, c'est chaud.
Oui, et cette fois-ci, l'arbitrage vidéo a été demandé par l'arbitre et il a sanctionné Enzo Forletta, le Montpellierin, par une pénalité que Martin Méliand vient de mettre entre les poteaux. Et le Loup prend un petit peu d'avance désormais, un petit break, 25-16 à la 51e minute. Donc, et on rappelle que les deux équipes sont désormais à 15 contre 15.
Wilfried Templier, tu es avec nous effectivement pour faire le point sur les enseignements de cette ultime journée de top 14. On est avec toi.
Rien ne bouge pour l'instant, hein, sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure. La grosse opération, elle est pour le Stade français qui rejoint le Stade toulousain en qualifié pour les demi-finales directement à Marseille. Et derrière, eh bien, Montpellier, Pau, le Racing et l'UBB dans l'ordre. Donc ça nous donnerait un Montpellier UBB et un Pau Racing, un Montpellier UBB de feu, on peut dire, et un Pau Racing aussi très très intéressant. Montpellier UBB, le vainqueur jouerait le Stade français en demi-finale et Pau Racing, le vainqueur jouerait le Stade toulousain, mais il reste encore du temps et pour l'instant, La Rochelle et Clermont sont hors des 6.
Merci
Paris
beaucoup.
Vient de prendre un jaune, tiens, d'ailleurs.
Ah ben voilà, ben, le temps, le score sur les différentes pelouses d'ailleurs, donc on va commencer avec toi, Romain Asselin, à La Rochelle.
Paris est devant, 19-10, 54e, mais attention, touche pour La Rochelle à 5 mètres et à 15 contre 14.
On est à Chaban-Delmas avec Pierre Thévenet pour l'UBB face à Clermont.
Il n'y a plus que 3 petits points d'avance pour l'Union Bordeaux-Bègles qui mène 24-21 face à Clermont à 25 minutes du terme.
Pau est opposé à Montauban et Diartigot.
Oui, et pour l'instant, la section qui est en train de dérouler, je te le disais tout à l'heure, Karine, un essai de pénalité pour le 45-28 et un 8e essai de Tuamanu, le 3 quarts centre, donc 52-28. Les Pédrois vont s'imposer avec le point de bonus offensif, donc 8 essais à 4 face à Montauban.
Clément Cressieux, le Racing 92 face à Toulouse.
50e minute, toujours 7-5, ça n'a pas bougé, mais les premiers remplaçants font leur entrée du côté de Toulouse. Attention, le match va peut-être prendre une autre tournure.
Edouard G, on est à Gerland avec toi.
Plus 9, 25-16 pour le Loup à la 53e.
Face à Montpellier, Julien Landry, Castres est opposé à Toulon.
Ouais, et les Castres qui mènent dans cette partie, 24-7, bonus offensif en poche pour le CO.
Et l'Aviron Bayonnais largement devant, 35-7 face à Perpignan. Vous êtes sur RMC, on vous fait vivre la dernière journée de top 14 avant les phases finales. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Gaël. 22h27, vous êtes sur RMC. On vit la dernière journée régulière de Top 14 avec Johan Hugier. On va tout de suite à Lyon. Le Loup face à Montpellier, Edouard G.
Avec la réduction de l'écart du Montpellier Hérault, 25-21, avec un essai de Tolofua et derrière une transformation qui n'est pas passée. Léo Colli qui a pris du temps pour passer la transformation, mais le ballon est tombé. Du coup, il l'a tenté en drop, en demi-volée, et finalement le ballon est passé à côté, et donc on en reste à cet avantage pour le Loup, mais ça se resserre, 25-21, le suspense s'invite à Gerland.
Et on va aller à la Défense Arena parce que Toulouse profite de sa supériorité numérique. Clément Cressio.
Et oui, il y a encore 12 minutes à faire en infériorité numérique pour le Racing, et Toulouse en a bien évidemment profité. Je vous avais dit juste avant la pub que les remplaçants commençaient à faire leur entrée du côté toulousain. Et bien c'est Guillaume Cramon qui inscrit ce deuxième essai après une pénale touche. On est venu amorcer un maul du côté des Toulousains. Maul très bien fait, on a avancé petit à petit, et Guillaume Cramon n'a plus qu'à plonger dans l'embut derrière son paquet d'avant. Voilà, ça fait le Stade Toulousain. Transformation ratée de Kingor, ça fait 10-7 et Toulouse repasse devant. Attention, le Racing qui laisse la porte ouverte à ses poursuivants pour le top 6 si le score de 20 en restait là.
Et attention,
attention, Cordona, la réponse. Oh là là, le Racing finalement qui répond immédiatement après ce coup de pied contré de Saito dans son camp. Ce coup de pied contré de Naoto Saito, le 2-1 mêlée japonais. Il était dans ses 22 mètres, il essaie de se dégager derrière un ruck. Et là, il y a un contre du Racing. Ce ballon qui commence à rebondir vers l'embut. Et Carbono, en bon demi-mêlée filou, il s'est jeté dessus dans l'embut. Donc voilà le Racing tout de suite qui répond et qui reprend les devants. Le Racing à la maison, 12-10 en attendant la transformation. Le match qui s'emballe d'un seul coup.
Incroyable, Johan, une réaction par rapport à cette réaction des Racingmen. Et après, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'UBB.
Il profite clairement d'une erreur de Saito. Hein, à voir si, quand même, si Carbono n'est pas hors jeu sur le coup de pied. Il faudrait checker. Mais voilà, c'est Toulouse qui offre pleinement cet essai et permet aux Racingmen de repasser devant.
La rage, on la voit du côté des Racingmen.
Monsieur oui. Gasnier ne demande pas l'arbitrage vidéo et la transformation elle passe de la part de Gibert, donc ça fait 14-10. Voilà, 4 points d'avance pour le Racing, 56e minute de jeu ici à l'Arena.
Et c'est extrêmement chaud parce que je le disais effectivement entre l'UBB et Clermont, Pierre, Clermont vient d'égaliser.
Incroyable la remontée des Clermontois, une pénalité de Harry Plummer. On joue la 60e minute, 24 partout entre les deux équipes. Johan, Bordeaux menait 24-7. On les pensait se diriger tout droit vers une qualification en phase finale, mais là c'est loin d'être terminé. Les 20 dernières minutes vont être énormes.
Ça va être énorme, hein, parce que les Clermontois sont totalement revenus avec une autre mentalité. Ils sont déterminés, ils tiennent le ballon sur ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps et on sent une équipe qui est totalement transformée.
Ça
on a
bouge.
Du mal à...
Oui.
Vas-y, pardon.
Non, mais vas-y, attends, je t'en prie.
Non, je disais, on a du mal à voir à comprendre comment ce Clermont-là a pu en prendre 40 face au Racing qu'on voit ce soir. Mais c'est aussi la magie du top 14, c'est qu'il y a des résultats parfois qui sont assez inexplicables. 24 partout et Bordeaux balbutie son rugby à nouveau, une touche perdue dans les 22 mètres Clermontois. Il reste 19 minutes à jouer.
Et je me tourne vers Wilfried Templier parce que ça bouge effectivement avec les résultats là actuellement. Tu nous fais un petit point ?
Mais c'est surtout l'info, c'est que si Clermont passe devant Bordeaux, Clermont sort Bordeaux des 6. Parce que pour l'instant, avec ce match nul, Clermont est à 2 points de l'UBB qui est 6e. Mais si il passe devant, eh bien, ça ferait 4 points, 2 points de plus.
Pour
Clermont. Et donc, Bordeaux est menacé. L'info, c'est que Bordeaux est menacé par, on va dire, Clermont, parce que La Rochelle est un peu trop loin du Stade Français. Mais j'allais vous parler du Racing aussi, mais le Racing a marqué aussitôt. Donc je pense qu'il va nous laisser rester 20 minutes de folie. Mais l'UBB sous la menace, ça n'a pas changé devant. Hein. Le Stade Français est toujours deuxième avec le Stade Toulousain et Montpellier troisième. Mais là, l'UBB est en grand danger.
Effectivement, l'UBB est en grand danger. On rappelle que pour l'instant, il y a match nul entre l'UBB et Clermont et qu'il y a eu des sifflets à Chaban-Delmas, effectivement, vu que les Bordelais sont en difficulté. Clément Cressio, on est avec toi pour le match entre le Racing 92 et Toulouse.
Ah oui, les Toulousains qui ont eu une nouvelle occasion avec à nouveau une touche à 5 mètres de l'embut. Ils ont essayé d'amorcer un maul. Ça a été extrêmement bien défendu par les Racingmen, notamment Maxime Baudon qui avait réussi à s'infiltrer dans ce maul. Et là, il y a eu une pénalité sifflée contre les Toulousains puisque Gibert avait réussi à intercepter un ballon. Il pouvait peut-être commencer à filer vers l'embut. Et Georges-Henri Colombe s'est rendu coupable d'un plaquage haut. Il l'a pris au niveau du cou, on va dire. Il l'a soulevé, projeté au sol. Voilà, un petit peu prise de cache. En plus, c'est deux gabarits assez différents, on va pas se mentir. Donc, il y a eu pénalité contre les Toulousains, mais il y aura pas de carton et il reste encore 7 minutes 30 à disputer à 14 contre 15 pour le Racing. 14 à 10 ici, on est à la 59e minute de jeu.
Et on va retourner à La Rochelle, Romain Asselin. La Rochelle est opposée au Stade Français et La Rochelle n'arrive pas à profiter des résultats sur les autres pelouses.
Ça, c'est terrible. Bah, ils ont pris 3 points avec Nolan Le Garec.
Ouais, ils sont toujours menés.
Encore, et ils sont toujours menés. Ouais, 19-13 pour le Stade Français. L'heure de jeu, vous entendez, De Flandre qui siffle. De Flandre qui est évidemment au courant de ce qui se passe ailleurs et là qui vient féliciter ses joueurs d'un contre en touche avec cette relance de Laguivala qui fait un gros match encore une fois. Laguivala, sauf qu'il a perdu le ballon sur la transmission. Et le turnover en faveur des stats du joueur du Stade Français. Nouveau turnover. Ballon récupération pour les Rochelais.
L'essai de l'ASM Clermont-Auvergne qui est en train de renverser le double champion d'Europe. Incroyable cette deuxième période que sont en train de produire les Clermontois. Ils tiennent le ballon depuis 25 minutes. Ils mettent à mal la défense bordelaise. Ils sont aux abois, les Bordelots. Béglé, il y a une énorme percée de Barnabé Massa le long de la ligne de touche. Incroyable talonneur qui a parcouru une trentaine de mètres. On a tenu le ballon au côté Clermontois avec notamment des belles courses de Yérim Fall pour venir mettre à mal la défense. Et là, c'est Ali Verretti, Loa qui trouve avec une passe croisée Kylian Hamdaoui qui transperce la défense bordelaise. Et Clermont prend les devants, 29-24, et sort provisoirement l'Union Bordeaux-Bègles des 6.
Et oui, Johan, une réaction après cette percée Clermontois. Ils sont en train de faire un énorme coup à Chaban.
Ouais, c'est le coup du siècle. Hein. Quand on voit leur première mi-temps effectuée du côté de Bordeaux et ce deuxième visage, cette deuxième équipe, j'ai envie de dire, sur la pelouse de Bordeaux, Clermont est en train de casser tous les codes et ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. C'est Clermontois parce qu'ils étaient en dessous de leur potentiel sur cette première mi-temps.
Et la transformation qui passe d'Harry Plummer, 31 à 24 pour l'Union Bordeaux, pour l'ASM Clermont qui vient d'infliger à l'UBB un 24-0.
Et Edouard, il y a eu un essai pour Montpellier.
Montpellier effectivement qui passe à l'instant devant 26-25, il me semble c'est Mohamed Awas qui va là-bas marquer cet essai. En tout cas, le plus important à l'heure de jeu, c'est que désormais Montpellier est passé devant. Temps faible pour les Lyonnais et les Montpellierains vainqueurs du Champions Cup récemment, eh bien, qui en profitent et qui vont marquer cet essai. Ils étaient déjà revenus avec l'essai de Tolofua à la 54e. Eh bien, donc un autre essai désormais 26-25 avec Léo Colli qui va essayer de transformer tout ça. Mais pour son pied gauche, avec l'angle qui va bien, normalement ça devrait faire un plus 3 pour le MHR.
On va vivre avec toi la transformation, Edouard, effectivement, parce que Montpellier qui réaliserait un gros coup en reprenant les devants. Donc on va voir si cette transformation est effective ou pas.
Elle est transformée effectivement. Bon, donc ça fait 28 à 25 donc pour le MHR qui a l'heure de jeu un petit peu plus, 62 minutes et 30 secondes pour être précis, passe devant 28-25.
Et là, Wilfried, il y a des changements au classement. Fais-nous un petit point parce que c'est très important.
On vous l'avait dit, l'info, c'est que le double champion d'Europe, l'UBB, est hors des 6 au moment où on se parle. Et c'est Clermont qui fait clairement la grande opération en rentrant à la sixième place à la faveur de cette victoire. On n'y est pas encore, hein, mais de mener au score à Chaban-Delmas. Et Montpellier aussi rentre dans les deux premiers derrière Stade Toulousain. Donc on a Toulouse et Montpellier en demi-finale directement. Et derrière, Stade Français Clermont et Pau Racing en barrage. Donc Stade Français à domicile face à Clermont et Pau qui reçoit le Racing. Stade Français Clermont. Le vainqueur, ce serait pour Montpellier, et pour Racing, le vainqueur, ce serait pour Toulouse.
C'est extrêmement chaud, il y a encore de l'incertitude et c'est pas fini, hein, vous le savez. Le temps, le score sur les différentes pelouses. On est d'abord du côté de l'UBB avec Pierre Thévenet, l'UBB face à Clermont.
Et c'est Clermont qui mène 31 à 24 à 14 minutes du terme à Chaban-Delmas.
La Rochelle qui est toujours menée, Romain Asselin.
Venez 19-13 par le Stade Français à la 64e minute.
Et Diartigo, évidemment, ne t'oublie pas, il y a du spectacle à Pau.
Oui, la 68e, la section paloise qui mène 52 à 35 points de bonus offensif et un arbitrage vidéo pour peut-être un nouvel essai, le 9e pour Emilien Gailleton. La réponse de l'arbitre, ouais, ça semble bon. Peut-être que Pau va désormais mener 57 à 35 face à l'équipe de Montauban.
On viendra te voir effectivement à la fin pour savoir si c'est enterré ou pas. Clément Crécio, le Racing 92 face à Toulouse.
61e minute de jeu, 14 à 10. Et là, ce sont les Toulousains, encore à 5 mètres de l'embute du Racing, qui poussent. Est-ce qu'ils vont enfin réussir à marquer un essai? Eux qui ont vendangé pas mal d'occasions depuis le début de cette rencontre. Cyril Bailly en percussion. Pour l'instant, c'est la défense du Racing qui tient bon. 14 à 10.
Le spectacle est au rendez-vous à Gerland, Edouard G.
À 16 minutes de la fin, le MHR est passé devant 28-25 et rendons à Thomas Darmon ce qui lui appartient parce que c'est lui qui a marqué le troisième essai. Montpellier à 28-25 donc pour Montpellier à 16 minutes de la fin.
Julien Landry, on pense à toi, on est avec toi, Castres-Toulon.
24-14 pour le CO, match sans enjeu de cette fin de saison, il reste 13 minutes à jouer.
Eddy Artigot, c'est validé ou pas?
Non, toujours pas. La décision qui pourtant, avec cet arbitrage vidéo, il semblerait que Emilien Gailleton, le 3/4 centre international vainqueur du tournoi destination avec l'équipe de France, est bel et bien aplati, mais oui. Que va dire l'arbitre? Non, il n'y a pas d'essai. On en reste à ce score donc, Karine, de 52 à 35 en faveur de la section. Il y a toujours le point de bonus offensif pour les Béarnais qui sont toujours quatrième de ce classement général.
Et Bayonne qui mène 45 à 7 face à Perpignan. Vous êtes sur RMC, vous ne ratez rien du dénouement de la saison régulière de Top 14. Il y a encore évidemment beaucoup d'incertitudes. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas, tout de suite.